It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Révélé par Laurent Ruquier, biberonné à Coluche et Pierre Desproges, Jérémy Ferrari, 34 ans, est sur scène à la Mutualité à Paris jusqu'à dimanche, avant une tournée dans toute la France. Après la religion et la guerre, son dernier spectacle, Anesthésie Générale, s'attaque maintenant à la santé, et notamment la sienne. Ces maladies invisibles qui ont bien failli l'amener à commettre l'irréparable. Portrait d'un humoriste révolté, signé Grégory Plouvier, du service culture du Parisien.
Jérémy Ferrari fait partie des humoristes qui vend le plus de tickets. Son précédent spectacle a été vu par 280 000 personnes, ce qui le place dans le top 3 des humoristes les plus populaires en France. Et c'est également un artiste qui produit d'autres artistes comme Laura Lone, qui connaît un gros succès en ce moment, mais aussi des personnes comme Guillaume Batz ou Philippe Croizon.
Grégory Plouvier, quel est le style d'humour de Jérémy Ferrari ?
Alors clairement, c'est l'humour noir. C'est sa carte depuis le début de sa carrière. Il n'hésite pas à aborder des thèmes que assez peu de personnes osent aborder, comme la religion, la géopolitique, ce genre de sujets. Et il va relativement loin jusqu'à dénoncer des actions un peu frauduleuses ou alors des pratiques peu éthiques de la part, par exemple, d'ONG ou des personnalités, quitte à risquer des poursuites judiciaires.
Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises pour Le Parisien. Il est comment dans la vie ?
Il est très accessible. C'est quelqu'un qui est très actif tout le temps, c'est-à-dire qui est toujours aux aguets, qui est toujours sur le vif, à vouloir rebondir sur une idée, avoir pas mal de projets en cours tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui est très simple.
Vous l'avez rencontré tout récemment, début janvier.
Oui, je l'ai rencontré quelques jours après avoir vu son nouveau spectacle dans lequel il se livre pour la toute première fois en évoquant des choses très personnelles.
On va retracer le parcours de Jérémy Ferrari avec vous, Grégory Plouvier. Il est né le 6 avril 1985 et il a grandi dans les Ardennes.
Plus précisément, dans le quartier de Manchester, à Charleville-Mézières. Donc, il vient d'une famille de commerçants relativement modestes. Il est fils unique. Il ne roule pas sur l'or. Et dès le départ, effectivement, il le dit, c'est sa situation personnelle qui nourrit chez lui une espèce de révolte qu'il exprime sur scène à travers ses spectacles.
À l'école, c'est quel type d'élève ?
C'est pas l'élève modèle. Pas du tout de bons résultats. C'est quelqu'un qui a un rapport à l'autorité qui est assez contrarié, on va dire. Il le dit lui-même. Et du coup, non, c'est pas un élève très brillant.
Il découvre le théâtre au début des années 90, quand il est en CM1.
Oui, c'est ça. Et c'est pour le coup une première révélation pour lui. La deuxième révélation, elle intervient juste après. C'est aux alentours de l'âge de 12 ans, lorsqu'il découvre des humoristes comme Coluche, mais surtout Pierre Desproges.
Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies. Ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien reconnaître un communiste afin de pouvoir le dénoncer aux autorités d'occupation. Aux autorités.
C'est sa première grosse claque. Là, il se dit, ah oui, d'accord, on peut parler de tout, on peut rire de tout, on doit rire de tout.
Et il va monter sur scène.
Ses premières scènes, il les fait à l'âge de 16 ans, 16 ans et demi. Ses premiers cachets même, vu qu'il obtient de la part d'un tourneur local possibilité de jouer, alors c'est assez modeste, dans des maisons de retraite par exemple, mais quelques petits spectacles comme ça devant des gens. Des petites salles où il se rôde un peu, première sensation face au public, c'est comme ça qu'il commence.
Jérémy Ferrari arrête ses études au tout début du lycée.
Il arrête en seconde, il venait de redoubler sa troisième. Surtout, c'est le système scolaire qui ne lui convient pas trop. Du coup, il arrête pour sa passion, le théâtre, et éventuellement tenter l'aventure au cours Florent. Il obtient même une dérogation, parce que les cours Florent à Paris, il faut avoir 18 ans théoriquement pour se lancer là-bas. Donc il obtient une dérogation pour pouvoir y être aux alentours de 17 ans, 17 ans et demi.
Et là, comment ça se passe ?
L'ambiance avec effectivement des élèves qui sont issus de milieux assez favorisés n'est pas, ne correspond pas trop, donc il arrête assez vite.
Et après le cours Florent, il reste malgré tout à Paris. Qu'est-ce qu'il fait ? De quoi il vit ?
Bah, il essaye de monter des spectacles, ça marchote pas trop d'ailleurs, mais surtout il a pas mal de boulot à côté. Il est groom, il est serveur, il est également prof de sport, parce qu'il a une grosse passion pour les arts martiaux qu'il a transmis son père, donc il est ceinture noire de jujitsu par exemple. Il écume les petites salles, ça marche pas très bien.
Et il va faire beaucoup de petits boulots, groom donc, vendeur de chemises, manutentionnaire, télévendeur, coursier, agent de sécurité. En 2010, il pense à arrêter le théâtre parce qu'il n'arrive pas à en vivre.
C'est ça, et là, il y a, comme souvent dans une carrière, il y a une personnalité qui fait tout basculer. Et chez Jérémy Ferrari, cette personnalité s'appelle Laurent Ruquier.
Pourquoi ?
À ce moment-là, en fait, Laurent Ruquier lance une émission qui s'appelle « On demande qu'à en rire ». Et pour cela, il cherche de jeunes humoristes au profil relativement varié, différent. Et Laurent Ruquier, c'est quelqu'un qui aime bien l'humour noir, l'humour piquant. Il a entendu parler de Jérémy Ferrari. Il aimerait qu'il passe les castings pour cette émission-là. Et du coup, c'est comme ça que Jérémy Ferrari se retrouve devant les caméras de France Télévisions pour cette première « à On demande qu'à en rire ». Et là, gros succès.
Mais écoutez, on a tout essayé, on a fait venir des déménageurs bretons, on a testé en biais, en triangle, en croix, elle ne passe pas. Non, écoutez, mais je ne suis pas contre vous, écoutez, vous voyez bien, je dis, regardez, moi depuis ce matin, je suis aussi gêné que vous, je ne sais pas où me mettre. Mais le problème, c'est que votre mère non plus, on ne sait pas où la mettre, hein.
En fait, cette émission, le principe, c'est des jeunes humoristes qui passent devant un jury et en fonction du score qu'ils obtiennent, ils peuvent rester la semaine suivante et continuer comme ça.
Voilà, moi j'ai une petite solution alternative à vous proposer éventuellement. De la faire en plusieurs fois.
Lui, il fera partie, durant toute l'aventure de « Ne demande qu'à en rire », des humoristes qui auront le plus marqué l'émission, avec des personnalités comme Arnaud de Samer ou comme Amet Silla. C'est Jérémy Ferrari qui aura eu quasiment le plus de participation dans cette émission-là.
Ah ben, moi, je vous le dis tout de suite, si on attend 6 semaines, autant vous la pliez vous-même, vous la mettez dans un petit tupperware, vous faites ça au micro-ondes à la maison. Hein.
Oh, merci. Son style, déjà... Et le même, c'est-à-dire qu'il est tout dans un créneau autour de l'humour noir. Il lance par exemple une rubrique intitulée Handicap, Handipacap, où il parle effectivement des questions de handicap. Donc, il parle aussi de pédophilie, il parle de religion, tout ça en access prime time, donc c'est pas évident. Et malgré tout, ça plaît beaucoup au public, ça plaît beaucoup à Laurent Ruquier. Il reste, ça marche, et là du coup son premier spectacle peut être lancé dans de bonnes conditions.
Premier spectacle qui s'appelle Alléluia Bordel, nous sommes en 2013 et ce spectacle a du succès.
Oui, alors, il y a une première version qui s'appelait Mes 7 péchés capitaux, qu'il rebaptise Alléluia Bordel, au départ dans des salles de 100-120 places. Et puis le succès aidant de l'émission, il commence à voir les jauges se remplir, 200, 300, 400 places. Au final, ce premier spectacle attirera plus de 220 000 spectateurs dans les salles.
Je vais donc pour les plus sensibles d'entre vous, et vous êtes nombreux ce soir, redémarrer immédiatement sur quelque chose de léger. Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle ?
De toute façon, je vais attendre, hein. Vous savez très bien que vous allez finir par vous faire dénoncer.
Ah ben, il est gênant ce spectacle de toute manière.
C'est à partir de ce spectacle-là qu'il lance son concept à signature, c'est-à-dire un spectacle égale un thème. Ce premier spectacle est consacré aux religions. Puis voilà, pas de jaloux, les catholiques, les musulmans, les juifs, tout le monde dans le même sac. Il surligne un peu les absurdités de chaque livre, que ce soit le Coran, la Bible ou la Torah, et ça marche.
Et il travaille beaucoup quand il prépare ses spectacles.
Disons qu'il a une démarche qu'on qualifierait presque de journalistique dans le sens où il se documente énormément en amont. Il rencontre des professionnels. Là, en l'occurrence, il se renseigne beaucoup sur les religions, mais dans les spectacles suivants, il pourra voir des professeurs d'université. Et il amasse une somme de documents. D'ailleurs, à la fin de ses spectacles, lui, il s'en va après un premier appel, il salue la salle et il laisse un classeur sur la scène que les gens peuvent consulter à loisir. Ce classeur, il contient en fait toute la documentation qui a été faite pour réaliser ses spectacles. Il les met également en ligne. Là, pour son nouveau spectacle, il m'a dit ça faisait plusieurs dizaines de milliers de pages qui sont consultables sur Internet.
À votre avis, pourquoi il creuse autant ces sujets ?
Je pense que c'est quelqu'un qui ne prend rien pour argent comptant. Il y a une petite anecdote qui raconte au Parisien Magazine il y a quelques années, lorsqu'il découvre en fait que la petite souris n'existe pas. Comment il le découvre? C'est en mettant, en fait, il était un peu intrigué comme tous les enfants par cette pièce qui se retrouve sous l'oreiller, et du coup, il place devant sa chambre un soir, il a perdu une dent, il place devant sa chambre tout un tas de billes pour vérifier si la petite souris pourra se déplacer avec ça. Et évidemment, ce qui doit arriver arriva. Sa mère, lorsqu'elle rentre dans la chambre de nuit pour mettre une pièce à la place de la dent, bah patatras, elle tombe. Et du coup, c'est comme ça qu'il découvre que la petite souris n'existe pas. Et en fait, ça résume assez bien le fait que Jérémy Ferrari veille à chaque fois derrière des choses qui nous paraissent évidentes, gratouiller, chercher, enquêter.
En janvier 2016, il est invité sur le plateau de Laurent Ruquier dans l'émission « On n'est pas couché ». Et parmi les autres invités, il y a le Premier ministre.
C'est une date particulière pour Jérémy Ferrari à plusieurs titres. La première, c'est qu'on est donc en janvier 2016, quelques semaines seulement après les attentats du Bataclan. Et le thème de son nouveau spectacle qu'il lance à ce moment-là, c'est justement la guerre, la géopolitique, le conflit au Proche-Orient. Donc des thèmes qui sont à l'époque et toujours maintenant dans l'actualité brûlante, sensible. Toute sa promotion tombe un peu à l'eau dans ce contexte-là. La seule émission qui lui tend le micro, c'est celle de Laurent Ruquier, dont on n'est pas couché. Laurent Ruquier, donc son ami, qu'il a lancé quelques années précédemment. Et donc il se retrouve effectivement face au micro devant Manuel Valls. On lui a dit, attention, ne rebondis pas trop, ne réagis pas, ce sera pas bon pour ton image. Et lorsque Manuel Valls parle de la manifestation post-Charlie, il monte au créneau et dénonce la présence d'Ali Bongo dans le cortège ce jour-là, en parlant d'un dictateur qui n'avait pas du tout sa place et que ce n'était pas le meilleur moyen de mettre en avant la liberté d'expression en France.
Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour la liberté d'expression? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut après rentrer dans des détails, parce que c'est là où vous allez nous perdre, parce que c'est ce que vous faites en fait.
Non.
Vous posez une question et vous nous perdez. Moi, je vous réponds simplement.
Vous l'aviez déjà dit, Jérémy Ferrari.
Non, je vais vous répondre. D'abord, laissons Ali Bongo, parce que dans cette manifestation... dans cette manifestation, il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo. Moi, je retiens et le président de l'autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain, élu, lui, Ibrahim Boubacar
Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement?
Non, pas comme on l'entend.
Manuel Valls est dans ses petits souliers, il a du mal à répondre sur le fond, et l'épisode fait le tour de la toile assez rapidement, et ça a un impact très fort sur son spectacle, vu que les journalistes découvrent cette polémique, vont voir le spectacle, chroniquent le spectacle, et là, le succès populaire est vraiment au rendez-vous.
Dans la foulée, il part en tournée dans toute la France pour présenter son one-man show, donc vente de pièces à Beyrouth.
Un one-man show qui commence par des déflagrations de bombes, etc. qu'on est quelques semaines, encore une fois, après les attentats. Donc c'est une entrée en matière qui est assez explosive dans tous les sens du terme. Et malgré tout, ça marche bien, ça marche très très bien. Au final, 280 000 personnes verront ce spectacle-là. Gros succès qui sera encore redoublé derrière avec des diffusions à la télévision. Jérémy Ferrari là, devient vraiment l'un des humoristes les plus vus en France.
Toujours en 2016, au milieu de cette tournée, alors qu'il connaît donc le succès, il vient de jouer à Aix-en-Provence et ce soir-là, il ne va pas bien du tout.
Il est dans une chambre d'hôtel, il vient de se disputer avec sa petite amie, vraiment une dispute assez violente, et il est sur le rebord d'une fenêtre, 20e étage d'un grand hôtel, il regarde le vide en dessous de lui. Il voit des arbres en dessous et il dit « voilà, je vois ces sols comme des excroissances de la mort » et il est prêt à sauter. Heureusement, à ce moment-là, il y a son meilleur ami qui arrive et en discutant, en parlant, permettra de le ramener dans la chambre d'hôtel.
C'est un épisode qui va le marquer, va prendre conscience de plusieurs choses à ce moment-là.
À ce moment-là, tout va bien pour lui. C'est-à-dire que le spectacle cartonne, il est très bien dans sa vie personnelle. Il commence à avoir un poids dans la société, entre guillemets, parce qu'en fait, il me le dit, il dit « voilà, j'ai jamais voulu être un simple humoriste, j'ai toujours voulu avoir une action pour la vie des gens ». Il commence là à sentir ça, à toucher ça du doigt, et malgré tout, il va pas bien. Donc là, pour lui, c'est une vraie prise de conscience. Il doit affronter les maladies invisibles qu'il doit dompter depuis des années. Cette fois-ci, il doit vraiment s'attaquer à ce problème-là.
C'est quoi ces maladies invisibles ?
Ah, il le dit sur scène d'une manière très naturelle et très simple. Il dit « voilà, je suis atteint de troubles obsessionnels, de troubles d'attention, de maladies de la dépendance, ce qui se caractérise en ce qui le concerne lui par un fort alcoolisme passé. » Et il est également diagnostiqué HP, donc haut potentiel, donc surdoués pour aller vite. Voilà, c'est un cocktail de maladies invisibles qui, combinées les unes avec les autres, font que ça occasionne une situation personnelle très difficile à gérer. Les médecins qui le suivront quelques semaines après cet épisode diront « Vous avez beaucoup de chance, vous avez beaucoup de mérite en tout cas, parce qu'avec ce cocktail-là, soit on tombe dans la drogue, soit on se suicide. En tout cas, les cas positifs sont rares. Bravo, chapeau d'être là. »
Et là, il se dit notamment qu'il doit arrêter de boire.
Oui, parce qu'en fait, il le décrit sur scène et il nous le dit dans l'interview. Il est arrivé à un stade où l'alcool était plus que problématique. Il buvait jusqu'à 6 à 7 litres de vin par jour les dernières semaines avant l'épisode. Du coup, il rentre en cure. Il voit des médecins qui mettent des mots, en fait, sur ce qu'il vit. Parce qu'il le dit, les maladies invisibles, le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez, c'est que les gens ne sont pas suffisamment informés. Du coup, lorsqu'on ne sait pas de quoi on souffre, c'est très compliqué d'être pris en charge. Il rentre dans une démarche de prise en charge. C'est difficile parce que du coup, il n'a plus ses béquilles artificielles que sont les médicaments ou que sont l'alcool. Donc lorsqu'il chute, c'est des chutes qui font mal, mais il se relève, il tient le choc et il a cette phrase que lui ont dite des médecins en disant « Voilà, tout ce que vous vivez aujourd'hui vous fait souffrir, voire vous détruit, mais sachez une chose, si vous réussissez à maîtriser, vous allez avoir des super pouvoirs parce que ce sont des maladies, mais qui, une fois domptées, peuvent faire des choses exceptionnelles. » Et du coup, il me dit, voilà, je me suis senti comme un X-Men lorsqu'ils m'ont dit ça. Et du coup, il est reparti sur une démarche très positive.
Qu'est-ce qu'il dit de sa fragilité ?
Il dit qu'il est à la fois très fragile, mais qu'il est également très fort. Aujourd'hui, il se sent suffisamment fort pour pouvoir, un, en parler, et ensuite pour pouvoir donner un message d'espoir aux gens qui peuvent être dans cette situation-là en disant « Voilà, moi si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. » Et surtout, il faut en parler parce que c'est que comme ça qu'on peut avancer et on peut se soigner et on peut évoluer. Il y a une chose qu'il met en avant, il a vécu des dizaines de réunions d'alcooliques anonymes. C'est en disant comme ça, face à des inconnus, toute la part la plus sombre de soi et recevoir en échange de l'amour et juste de la bienveillance, c'est le plus beau des pansements, c'est ce qu'il dit lui. Du coup, ce spectacle-là, pour lui, c'est un pansement XXL. C'est dire, voilà, j'ai ce profil-là, j'ai ces difficultés-là, j'ai à ce point confiance en vous que je vous en parle. Et de surcroît, ça va permettre à des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui souffraient de ces maux-là, de se dire, bah, finalement, c'est pas forcément irrémédiable. Une fois qu'on est pris en charge, on peut ressortir la tête haute. Et ce spectacle-là, derrière l'humour noir, il fait rimer ça avec espoir.
De ces maladies, de cette souffrance, il tire un nouveau spectacle qui s'appelle « Anesthésie générale ».
C'est une charge virulente contre les dérives des pratiques de certains laboratoires, les dérives du système de santé français, mais dans lequel il parle également de ses propres failles, sur ses propres maladies qu'il a dû apprendre à dompter.
Ça fait des années que je cache des trucs, que j'ai pas voulu raconter des choses, parce que je me disais que ça n'intéressait personne, et puis parce que ça ne concerne pas les gens. Et puis quand je me suis mis à cœur sur la santé, je me suis dit en fait je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vécu, parce que je pense que ça va aider plein de gens. Il y a eu des périodes dans ma vie qui étaient compliquées. Maintenant, ça fait plusieurs années que je me suis éloigné de pas mal de choses. Et donc là, je me dis que je suis capable d'en parler.
C'est émouvant de l'écouter parler de tout ça sur scène.
C'est étonnamment drôle. Évidemment émouvant. Et lorsqu'on sort du théâtre, il nous faut quelques minutes pour reprendre une conversation un peu normale parce qu'il y a un effet de choc qui est rare en fait dans le monde de l'humour. On se sent à la fois privilégié qu'il ait eu cette confiance de nous confier tout ça et à la fois on voit un peu les choses différemment. Et c'est un des rares spectacles pour lequel on se met un peu dans la peau de quelqu'un d'autre en se disant « Ah oui, d'accord, moi c'est des problèmes que je n'ai pas, mais c'est terriblement impactant de sentir tout ce qu'il a pu vivre au quotidien. » Il ne rend pas ça glauque, il rend ça finalement un sujet de conversation presque comme les autres. Et ça, pour le coup, c'est un joli tour de force.
Et son spectacle est déjà un succès.
Oui, il a déjà vendu 100 000 billets avant même sa toute première date à Paris. Donc c'est des chiffres vraiment impressionnants. Tout est complet donc sur Paris cette année. Beaucoup de dates en province le sont également. Il y a encore quelques zéniths pour lesquels il reste des places. Il sera également en 2021. Il a déjà des dates pour Paris. Il sera de retour aux Folies Bergères. Il devrait dépasser la barre des 300 000 billets sûrement et en tout cas être l'un des spectacles les plus vus en 2020 dans le registre de l'humour.
Merci à Grégory Plouvier. Épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.